20h10, enfin 20h14, le club de la presse numérique. Nous parlons de la Paris Digital Week, la semaine digitale à Paris, de Paris qui s'ouvre aujourd'hui avec 3 forums internationaux, notamment sur la gouvernance d'Internet, la régulation du numérique et le sommet des GovTech, les technologies au niveau des gouvernements. On appelle ça les GovTech. Et nous en parlons avec l'entrepreneur et activiste Elliot Lepers. Bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi qu'Emmanuel Paquette. Alors pour commencer, prenons ces événements peut-être l'un après l'autre dans leur singularité. 3 forums à la fois ce week-end, qui commence ce week-end. Le premier, le forum de Paris sur la paix. Quel est le rapport, Elliot Lepers, avec Internet et les problématiques liées au numérique ?
Ils sont multiples. Il y a notamment un hackathon qui va avoir lieu pendant ce forum sur la question de des données financières et comment est-ce qu'on rend plus transparente l'accès aux données financières et notamment au budget des organisations internationales. Donc il y a à la fois la dimension de l'ouverture et comment est-ce que le numérique permet de faciliter l'accès qui permet donc de garantir la paix ou de d'œuvrer à la paix. Et puis derrière, c'est aussi tous les enjeux du numérique comme facteur, comme arme en fait finalement. Et donc comment est-ce que les nouveaux usages du numérique peuvent contribuer à alimenter les conflits.
Justin Weiss, qui est le président du Forum de Paris pour la paix, ne mentionne pas une seule fois les sujets liés au numérique, ni dans son interview qu'il a donné à France Inter, ni dans son interview au Monde, Emmanuel Paquette.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, cet événement a été piloté par le Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay essayait de mettre en place une signature des accords de paix dans l'univers du numérique avec un appel à signature auprès de nombreuses personnalités. Et à ce jour, on ne sait pas qui a signé cet appel à la paix. Il faut savoir aussi que dans un cadre plus large, cet appel à la paix vient en fait dans un phénomène de guerre numérique, parce que ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'agressions avec des virus, qui ont attaqué des sociétés, qui se sont répandues dans le monde entier.
De cyber-insécurité.
Voilà, exactement. Il y a eu WannaCry, il y a eu NotPetya, qui sont attaqués à des grandes entreprises, qui ont bloqué des hôpitaux, même, notamment en Angleterre. Et l'idée qui, en ce moment, flotte un peu, notamment au niveau des États-Unis, c'est ce qu'on appelle un concept de hackback. C'est-à-dire que quand une entreprise est attaquée, elle aurait le droit de riposter, du moment qu'elle arrive à attribuer l'attaque, c'est-à-dire qui est l'attaquant, et de riposter comme il se doit. L'Europe est contre.
Il se trouve pourquoi que,
parce qu'en fait, c'est pas dans la culture européenne de riposter, et surtout de faire en sorte que c'est une forme de Far West, hein, c'est-à-dire que la justice ne dépend plus du tout de l'État, mais d'entreprises privées qui pourraient riposter à une cyberattaque. Et notamment, c'est Microsoft qui pousse en grande partie ce système de hackback. Ils ont poussé à une convention de Genève dans l'univers du numérique. Et c'est en fait, c'est les entreprises, et ce n'est pas les États, qui demandent le hackback. C'est ce qui est un peu étrange.
Donc elles peuvent se venger au fond, c'est comme si elles avaient le droit de porter une arme. Quoi.
Exactement, et comme aux États-Unis c'est autorisé, au niveau de chaque citoyen a le droit de porter une arme, la logique américaine se dit, mais pourquoi chaque entreprise n'aurait pas aussi le droit de se défendre et de riposter à une agression? On est absolument dans la même logique.
Sur ce sujet, Elliot Lepers?
C'est effectivement le danger aussi que ça montre de se dire qu'une entreprise est responsable d'identifier quel est l'attaquant et donc pourrait se tromper, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise se trompe et considère que, ou alors si on lui fait croire, si elle est volontairement trompée pour identifier un attaquant qui serait finalement pas le vrai. Donc ça pose une problématique de justice fondamentale et effectivement c'est pas du tout dans la culture européenne.
Alors autre sommet, celui des GovTech, hein, les technologies gouvernementales si on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel sommet, Emmanuel Paquette?
Les GovTech, c'est faire en sorte que les grandes démocraties intègrent l'aspect numérique dans plein de processus différents qui peut être, ça peut être toucher le vote électronique par exemple, mais ça peut être aussi la e-administration, c'est faire en sorte qu'on puisse, vous savez, aujourd'hui le pays le plus en avance dans ce domaine c'est l'Estonie, puisque aujourd'hui tout est numérisé carrément en Estonie. D'ailleurs, des représentants du gouvernement estonien sont présents à Paris en ce moment. Donc on peut payer tout ce qui est paiement de l'impôt, des taxes se fait automatiquement sur Internet, même son historique de santé est directement accessible sur Internet. Tout ça est normalement sécurisé. Après, il faut savoir qu'aussi, justement, et on revient au premier point, l'Estonie a subi une attaque informatique majeure en 2008 qui a tout bloqué. Aujourd'hui, ils disent que, justement, ils ont appris de cette attaque et on pourrait plus bloquer tous ces systèmes-là. Ça avait mis quand même le pays à terre, hein, cette attaque, puisque les entreprises pouvaient plus déclarer en ligne tout ce qui était imposition, TVA, etc. Donc, on voit que c'est la logique du premier point. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la paix, on peut éventuellement essayer d'organiser une e-administration, une e-gouvernance, aussi bien du côté du citoyen que de la sphère privée, des entreprises et au niveau du gouvernement lui-même.
Sur ce point, Eliott Lepers, sommet des GovTech, imaginez le gouvernement technologique de demain, c'est crédible?
Oui, d'ailleurs, en Messonie, il y a même un statut de résident numérique hein, qui a été créé. Les GovTech, c'est effectivement comment est-ce qu'on numérise le gouvernement, comment est-ce qu'on numérise la relation entre le citoyen et l'État. C'est aussi comment est-ce qu'on améliore la démocratie. Et là-dessus, c'est toute la scène qui est très active en France de la civic tech. Et donc, comment est-ce qu'on crée des ponts entre les citoyens et leurs élus? Comment est-ce qu'on renforce la responsabilité des élus? Comment est-ce qu'on renforce la transparence, la consultation? Et là-dessus, il y a énormément de startups qui vont être présentes dans ce forum des GovTech. Et la question qui se pose évidemment, c'est aussi de se dire, est-ce que c'est le rôle de l'État d'instrumentaliser ça finalement? Est-ce que c'est le rôle de l'État de contrôler ces tentatives qui essaient de recréer des marges, qui essaient de recréer des marges dans la démocratie, de recréer des espaces de liberté et on dirait en accountability en anglais, donc vraiment c'est le fait de tenir pour responsable les dirigeants. Et moi c'est l'inquiétude qui me traverse, c'est de se dire je m'inquiète de la volonté du gouvernement de vouloir à ce point-là s'immiscer dans cette période expérimentale qu'on est en train de vivre, où il y a des acteurs privés qui essayent de recréer des moments de partage, d'échange, de transparence entre les citoyens et les élus. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est véritablement le rôle de l'État de s'immiscer là-dedans.
Alors, troisième forum qui commence également ce week-end, dans cette semaine parisienne du digital, si on peut dire, le forum sur la gouvernance d'Internet. Alors, c'est quelque chose de régulier, c'est un forum onusien. Il a été qualifié de laboratoire de la gouvernance par l'ambassadeur du numérique David Martinon, qui termine d'ailleurs son mandat, puisque Henri Verdier le remplacera sous peu. Ce forum sur la gouvernance d'Internet est accueilli par l'UNESCO à l'invitation de la France. Il existait depuis 2006 hein, sur les politiques publiques liées au numérique. Cette année, la thématique sera l'Internet de confiance et le président de la République, Emmanuel Macron, s'y exprimera pour la première fois. Emmanuel Paquette.
Oui, alors c'est un peu étrange, pareil, je trouve cette thématique-là, parce qu'aujourd'hui, quand on voit déjà des pays comme la Chine qui ont une muraille de Chine numérique qui fait que l'Internet chinois n'est pas du tout le même que l'Internet que nous, on peut vivre, et qu'en réalité, la gouvernance de l'Internet chinois, elle est sous autorité du gouvernement chinois, et qu'on ne peut accéder, quand on est un citoyen chinois, qu'est-ce que veut bien laisser accéder le gouvernement chinois. La Russie prend à peu près la même tangente, entre guillemets. Donc on voit plutôt différents internets avec différents types de gouvernance d'internet qui peuvent aller d'un contrôle extrême à une forme de liberté qui l'est tout autant, notamment dans les pays développés, hein, les États-Unis, l'Europe, mais qui, de l'autre côté, est détenue en grande partie par des entreprises privées qui, elles, arrivent à capter des données et à faire à peu près ce qu'elles veulent des données et qui échappent au contrôle en grande partie des autorités locales.
L'idée, c'est un peu une sorte de forum de Davos, non pas pour l'économie, mais pour la gouvernance d'Internet, selon ses initiateurs, Eliott Lepers.
Ouais, j'imagine. effectivement, ça laisse un peu perplexe. On peut s'interroger sur la méthode, en fait, et puis aussi la volonté du gouvernement de vraiment lier tous ces événements qui n'ont pas vraiment grand-chose en commun, pour en fait prendre un peu la direction.
C'est une opération de communication finalement aussi, d'afficher en fait les trois à la fois.
Ouais, c'est ça.
Au même moment où plein des chefs d'État sont là pour fêter le 11 novembre, on en rajoute. Enfin voilà, pour essayer de créer un événement plus consistant d'une certaine manière, y compris avec tourné vers l'avenir.
Ouais, c'est un attelage assez brinque-ballant avec des choses qui n'ont pas grand-chose en commun. Et finalement, voilà, on comprend que le gouvernement français essaye de redorer comme ça son image de gouvernement numérique, de la Startup Nation. On sent que c'est ça qui est en train de se jouer, c'est d'essayer de prendre la direction d'un mouvement international.
Mais c'est plutôt bien vu, non, d'essayer d'être un leader sur ces secteurs. On ne peut pas à la fois reprocher tout le temps aux Américains avec les GAFA d'être les seuls dans le jeu et de dire que c'est bizarre que la France veuille faire ça, non?
Moi, je pense qu'on a besoin effectivement que les États s'intéressent à ces sujets-là et soient proactifs et engagent des réflexions. Et c'est ce qu'a fait Henri Verdier avec beaucoup de talent depuis plusieurs années.
À Etalab.
À Etalab notamment en France. Et donc ça augure d'années intéressantes dans son nouveau rôle. Derrière, voilà, on est aussi en plein débat très récemment sur les fake news et sur la question de la régulation de l'information par l'État français. Donc il y a des sujets qui sont pas tranchés au niveau politique et il n'y a pas forcément les curseurs dans ce qui est porté par le gouvernement pour nous dire qu'ils ont la maturité nécessaire ou la grandeur d'âme nécessaire pour porter ces sujets de manière non partisane. Et c'est quand même le grand enjeu quand on parle de ces questions-là.
Emmanuel Paquette.
Bah oui, comme le dit un peu Eliott, c'est vrai que là on parle de gouvernance d'Internet quand les États eux-mêmes n'arrivent pas à gouverner leur démocratie, puisqu'on voit aujourd'hui la circulation des fake news qui aujourd'hui n'est toujours pas régulée dans aucun pays. Il se trouve qu'on fait confiance à Facebook, à Google et aux autres pour s'auto-réguler, pour essayer d'éviter que ces fake news ne circulent. C'est comme un sujet d'inquiétude durant les mid-terms aux États-Unis. C'est vraiment un sujet d'inquiétude pour les européennes de 2019 qui arrivent, de contrôler et de savoir ce qui va se passer sur les fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Et puis, j'en viens aussi à l'évolution, parce que pour l'instant, on n'est qu'au début des fake news. C'est pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Il se trouve que maintenant, on arrive sur la voix qui peut être modifiée, et puis surtout les vidéos qui peuvent être modifiées. Donc, ce qu'on appelle les deepfakes. Donc, c'est un mariage entre fake news, donc les fausses informations, et l'intelligence artificielle qui permet de recréer artificiellement, de mettre le visage de quelqu'un pour lui faire dire n'importe quoi. Il y a notamment sur YouTube, vous trouverez facilement un discours d'Obama qui insulte Trump. Obama n'a jamais insulté Trump, en tout cas pas de face caméra. Donc il se trouve qu'on n'est qu'au début de la manipulation de l'information et les démocraties sont déjà totalement dépassées par le phénomène. Et ces mêmes démocraties nous parlent aujourd'hui de gouvernance d'Internet. Donc,
Zoé Sèze.
Mais justement, sur à la fois l'opportunité de ces trois réunions, ce fameux forum, il a été voulu par Emmanuel Macron, mais on nous dit sur la page d'À Propos d'ailleurs qu'il est financé par des donateurs. Sur, de manière générale, ce type d'éléments de réflexion, qu'est-ce qu'on peut justement attendre de leur opportunité, de leur transparence, de la manière dont ils se définissent? Parce qu'on a l'impression que, comme on est sur des matières nouvelles, il y a une forme d'anarchie, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce qui se vaut et ce qui ne se vaut pas dans ce type d'événement?
Eliott Lepers. Quand on parle d'anarchie, on passe la parole.
Mais quand on parle par exemple de financement sur ce fameux forum de la paix, on ne sait pas qui le finance. On nous dit que c'est des financeurs internationaux, anonymes et indépendants.
Il y a une liste de 6 bienfaiteurs qui a été publiée, avec notamment la BNP Paribas, avec la Ford Foundation, avec des acteurs, et c'est notamment sur le forum GovTech, c'est aussi beaucoup des acteurs privés, des grosses assurances, voilà. Donc effectivement, ça pose question concrètement. En fait, moi je trouve qu'il y a un entre-deux et il y a une absence de clarté entre d'un côté quelque chose qui est étatique, et effectivement avec une parole qui doit être portée par les États sur ces sujets qui sont de souveraineté nationale et internationale, et derrière, qui sont en fait alimentés par des acteurs privés. Et il y a une espèce de mélange des genres qui est assez malaisant, en fait.
Effectivement, puis il y a quand même les responsables des affaires publiques de Microsoft, donc Brad Smith, qui va être reçu par Emmanuel Macron. Et il y a également Nick Clegg, qui est maintenant le nouveau responsable des affaires publiques de Facebook au niveau mondial, qui vient de la politique en plus, donc qui a été récupéré.
Mélange des genres total, là.
Total, voilà. Et eux-mêmes vont rencontrer aussi Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. On voit pas des PDG, on voit pas les PDG de Facebook, on voit pas les PDG de Microsoft. On voit les responsables des affaires, donc les lobbyistes en fait, de ces grands groupes qui viennent directement parler aux politiques.
Et c'est marrant parce que ce Forum pour la paix est présenté comme inspiré par la COP21, oui, qui avait eu lieu en 2015, alors justement qu'on vient d'apprendre qu'aucun des engagements pris par les pays de l'Union européenne lors de cette COP21 n'avait été respecté. Donc c'est une sorte de désaveu de la méthode, alors même que cette méthode est présentée comme étant un espoir de coordination internationale. Alors qu'on est en train de préparer la COP24 avec énormément d'inquiétudes sur la position de la France. Donc c'est aussi cette espèce de nuage de fumée et personne n'est vraiment dupe. Et puis en même temps, on se dit qu'on a tellement besoin d'avancer parce qu'il y a ces inquiétudes sur les temps électoraux. C'est un attelage qui n'est pas idéal, mais
faute de mieux.
Vincent, donc faute d'avancer, donc faute de mieux, effectivement.